Écrit l'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors, retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2. Quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Christine Carmona.
Bonjour à vous deux. Merci de me recevoir, de m'accueillir.
Il n'y a pas de quoi. Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs reçoit aujourd'hui donc Christine Carmona pour son roman Issue de secours, paru aux éditions L'âme en livre en 2024. Alors Christine Carmona, si j'ai bien travaillé mon dossier, enseignante, interprète, traductrice, tu as choisi il y a maintenant une quinzaine d'années de devenir biographe et d'avoir également une activité d'écriture personnelle. En accord avec une citation qui t'a beaucoup marqué de Confucius, « Choisis un métier que tu aimes et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie ». Donc, la petite question habituelle où on demande la place de l'écriture dans la vie de l'auteur, on a déjà une petite idée. Mais en revanche, peut-être la première question qu'on a envie de partager avec toi, c'est comment on choisit justement de faire de l'écriture son métier, parce que c'est un vrai changement de parcours, on va dire. Est-ce que, voilà, c'est une question à laquelle tu peux nous répondre pour qu'on se mette en route à propos de ton roman ?
Oui, oui, c'est vrai que c'est une trajectoire qui est en lien avec les événements de la vie, je pense, parce que entre la phase de traductrice, d'enseignante, d'interprète, il y a eu une tranche de 20 ans où j'étais chargée de production, je faisais des relations presse aussi, je travaillais dans le culturel, et avec une compagnie de théâtre, j'organisais différents événements culturels, et au bout de 20 ans... les choses se sont arrêtées et j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais mettre en place dans ma vie, comment bifurquer. Mais il se trouve que une série de deuils est venue perturber la vie et que l'écriture s'est invitée. Mais alors, ce qui était très étonnant, c'était que c'était une écriture de fiction, alors que j'avais toujours mis au service d'autrui l'écriture d'un point de vue pratique, on va dire, monter des dossiers, défendre des artistes, des choses comme ça. Et là, c'est un compte initiatique qui s'était invité. On était en 2011 à peu près, et ça a pris une place énorme au point d'assister ensuite à des ateliers d'écriture et puis à me demander mais comment je vais faire pour gagner ma vie avec l'écriture. Donc j'ai bien compris que vivre de sa plume était quand même très compliqué, quelque chose de réservé à peu de personnes ou à des personnes très chanceuses, je ne sais pas, ou très douées, très compétentes ou très... en tout cas, je me suis interrogée, que faire ? L'écriture a pris de la place et j'ai pensé à la biographie. Et donc, je me suis formée à la biographie. Donc, c'était plutôt des biographies familiales, mais je sentais que ce n'était pas tout à fait ça qui allait m'importer. J'ai découvert le métier de biographe hospitalier. Et là, ça fait tilt, parce que c'était en lien avec un vécu personnel, l'accompagnement de personnes en fin de vie dans ma famille. Et tout s'est aligné, tout faisait sens. Donc, je me suis formée à la biographie hospitalière. Et parallèlement, j'avais cette autre facette qui était l'écriture de fiction qui a pris aussi énormément de place. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup.
Donc, dans son roman « Issue de secours », Christine Carmona use d'un subterfuge pour traiter le syndrome du survivant lors d'une catastrophe aérienne. Les lecteurs découvriront lequel. Elle nous fait également vivre les tourments des familles après la disparition de leurs proches, mari, femme, enfant, sœur, et comment chacun survit ou tente de survivre à la perte.
« Alors, Christine, comme l'a dit Martine dans son résumé, hein, ton roman s'appuie sur des faits réels, hein, un drame autour d'un vol d'avion où il y a eu un crash et où 229 personnes sont décédées. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce que nous vivons aujourd'hui à propos de la tragédie du Bataclan, hein, il y a une dizaine d'années, et d'une série qui a vu le jour, qui s'appelle « Des vivants », qui tente de retracer la reconstruction des survivants, des rescapés. Quelles précautions doit-on prendre quand une fiction s'appuie sur des faits réels aussi tragiques pour ne pas heurter, on va dire, les vrais acteurs de la vraie tragédie quand on écrit?
Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les conditions dans lesquelles je me suis mise à écrire. Mmh. J'ai répondu simplement à un élan compassionnel quand j'ai assisté à la retransmission télévisée des conclusions rendues par le bureau enquête-analyse autour de la boîte noire et des raisons potentielles et techniques ou humaines ou les deux de cette tragédie et de ce crash. Mm-hmm. Et j'ai été vraiment très impactée par ce qui se passait, c'est-à-dire que dans la salle de conférence, il y avait une émotion extrêmement palpable puisque les familles étaient présentes. Et puis, il y avait ce jargon aéronautique, ces informations techniques qui étaient délivrées. Bien entendu, on ne demandait rien d'autre au monsieur qui s'exprimait là. C'était bien normal. Mais je me suis interrogée sur le gap qu'il y a entre ce que l'on dit, ce que l'on peut lire dans la presse, et puis la place qui est faite à ses proches et à ceux qui restent. Et ça m'a tellement impactée que j'ai tout de suite eu l'idée d'écrire un roman, mais d'écrire sur le sujet, c'était répondre pour moi, encore une fois, à un élan compassionnel. Mmh. Et je n'avais pas du tout de velléité de publication à ce moment-là. Mmh. Juste me saisir du sujet parce que le sujet de la perte, du deuil, des endeuillés, de la mort n'est jamais traité dans la société. C'est comme s'il n'y avait pas d'espace. Donc, dans un premier temps, ça n'était pas ma préoccupation de prendre des précautions, puisque pour moi, je répondais à un élan. Mm-hmm. Après, dans un deuxième temps, et il s'en est passé des années, en 2023, je découvre qu'il y a un procès d'Airbus et d'Air France, hein, et mon manuscrit est resté pendant des années dans le tiroir. Et là, je n'en revenais pas. Et en même temps, je vois passer un sujet de nouvelles sur la notion d'imprévoyance, un concours de nouvelles présidé par Frédéric Lenoir. Quelque chose, un drame intervient dans votre vie et comment vous rebondissez, c'était la thématique. Donc du coup, j'ai refondu le roman en une nouvelle et j'ai participé. Le texte a été sélectionné parmi 170, si on en sélectionne une quinzaine. Et ça, c'était une première étape, mais c'était tellement confidentiel que là encore, la question des précautions à prendre ne venait pas à l'esprit. Sachant que, soit dit en passant, tous les personnages sont tout à fait factices. Hein. Ce sont des personnages de fiction, je ne suis pas du tout inspirée de personnages réels. Mm-hmm. Je n'ai pas fait cette démarche de me rapprocher des familles des victimes. Mm-hmm. C'était entre moi et moi, jusqu'à cette petite fenêtre avec une nouvelle. Et puis le procès étant là, je me suis dit quand même, j'ai re-relu le roman et j'ai eu l'idée quand même de le présenter à un éditeur, ce que j'ai fait. En parallèle, j'ai pris contact avec l'association, j'ai eu contact avec la présidente et j'ai expliqué qu'un livre allait paraître de manière assez confidentielle puisque c'est un petit éditeur. Mm-hmm. Hein. Ce n'est pas une grosse fenêtre, mais il m'a semblé normal de les informer de la parution de cet ouvrage. Voilà, donc c'était une posture intérieure. Mm-hmm. Même quand je n'avais pas l'idée de publier, ce qui m'animait, c'était un infini respect, des précautions. Je me mettais à la place, en fait. Je me suis mise à la place de ceux qui restent. Et depuis cette place-là, eh bien, je pense que ce que l'on dit est beaucoup plus délicat. En tout cas, c'est ce qui m'animait aussi, la délicatesse.
D'accord, merci beaucoup. Peut-être.
Oui, enfin, moi j'avais juste une petite question à propos. Enfin,
vas-y, Martine.
Moi, ça concernait justement les différents personnages donc, qui sont de fiction. Et donc, tu élabores différents. Alors, je ne sais pas si le mot méthode est bien choisi, enfin, différents moyens que ceux qui restent, en fait, utilisent, enfin, à quoi ils se raccrochent pour survivre et se reconstruire. Donc, donc il y en a, c'est par la foi, d'autres c'est par des espèces de, on ne sait pas trop en fait, hein. Psychologue aussi. Enfin, comment t'as choisi en fait ce panel, je pourrais dire.
Oui, c'est vrai que dans le roman il y a une galerie de portraits de famille. Il y a une famille à Rio, on découvre une famille à Madrid, à Londres, à Paris, et comment j'ai choisi, je me suis laissée porter par l'inspiration et peut-être même par l'inspiration de Léo. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Léo qui m'a emmenée, Léo étant l'écrivain, hein, puisqu'il y a une mise en anime, il y a un roman dans le roman, et Léo, le personnage principal qui est survivant dans la fiction, alors que dans la réalité, il n'y a pas de survivant. Lui, il a le syndrome du survivant et pour s'en sortir... et pour faire un sort à sa propre culpabilité, il va se mettre à écrire d'une écriture tout à fait différente de celle qu'il a l'habitude de pratiquer, puisqu'il écrivait des polars. Et là, il a décidé de donner la parole à ceux qui restent. Donc, en fait, c'est Léo qui m'a emmenée. Je me souviens de Stephen King qui disait, dans ses secrets d'écriture, il disait que sa façon d'écrire à lui, il n'avait pas de plan, et que c'était souvent ses personnages qui l'emmenaient. Il commençait à écrire, il commençait à brosser le portrait de quelqu'un et finalement ce quelqu'un l'emmenait. Et en fait, je suis comme ça dans une forme d'écriture un peu intuitive. Voilà, il y a on dit qu'il y a les écrivains architectes et les écrivains jardiniers, et je pense que je suis beaucoup plus dans la catégorie des jardiniers ou des jardinières. Et que du coup, le choix des familles et la façon dont ils vont s'en sortir ou rebondir, ou pas d'ailleurs, ça s'est fait sur le moment, quand j'étais, comment dire, dans cette bulle, dans cette immersion, dans cette plongée même de l'écriture qui vous emmène dans un état un peu méditatif. Alors évidemment, on puise dans sa propre expérience, hein, parce qu'on a tous eu des épreuves
bien
à
sûr.
Dépasser. Donc, nécessairement, à un moment donné... Il y a du vécu qui peut revenir et qui vous rappelle un certain nombre de choses ou un certain nombre de possibles pour s'en sortir. En tout cas, si je devais résumer, pour Léo, cet écrivain qui culpabilise d'être vivant, sa façon à lui de s'en sortir, c'est l'écriture, c'est d'utiliser l'écriture.
Ouais,
merci beaucoup.
On creusera un petit peu ça après la pause musicale, puisque c'est déjà le moment. Et donc, Christine Carmona a choisi Nino Ferrer, La Rua Madureira.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio. La couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps. Et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2. Nous sommes en compagnie de Christine Carmona pour son roman Issu de secours. Chanson appropriée, hein?
Oui. Très belle chanson.
Oui, c'est une très belle chanson. Mais ce qui est fou, c'est que cette chanson, je la connaissais, je l'avais toujours entendue, mais je ne m'étais jamais attardée sur les paroles. Et ça n'est qu'après la publication du roman que je suis tombée
T'as
sur les
le
paroles.
Tu as fait le lien,
oui. Ah oui, c'est impressionnant.
Oui, ouais, tout à fait.
Ça décrit certaines scènes, la scène du taxi,
oui,
qui est à l'aéroport.
Fait. Tout à fait.
C'est fou. Ouais.
Alors justement, sur l'écriture, tout à l'heure, Martine justement disait hein, sur le fait que chaque proche... à sa technique ou son recours pour essayer de se reconstruire. Là, en l'occurrence, dans ton roman, Léo, le personnage principal, c'est l'écriture, un peu comme une catharsis, comme un outil de résilience d'ailleurs, hein, quelque chose que, il me semble, te tient à cœur, y compris dans ta profession de biographe. Selon toi, donc, qui t'adonne à l'écriture très régulièrement, pourquoi de telles vertus aurait l'écriture ? Est-ce qu'on peut décoder des choses ? Est-ce qu'on peut comprendre le phénomène ?
Oui, on peut en tout cas essayer, même si je ne suis pas une spécialiste ni une experte. Mais j'ai lu beaucoup les experts qui parlent de la chose. Mm-hmm. Et je pense que les vertus de l'écriture sont le cran au-dessus des vertus de la parole, dans le sens où c'est vrai que quand on parle, quand on s'exprime, on s'allège, mais on peut assez vite ressasser et répéter un peu ce qui nous désencombre l'esprit dans l'épreuve. Et que il me semble, en tout cas ça a fonctionné pour moi, hein, je l'ai expérimenté dans ma propre vie, et il y a beaucoup de témoignages qui vont en ce sens, et c'est aussi la théorie énoncée par Boris Cyrulnik, c'est-à-dire que quand on fait œuvre du malheur au travers de l'art en général, et si c'est l'écriture qui est l'outil, eh bien c'est l'art de l'écriture, on fait œuvre, c'est-à-dire qu'on concrétise, qu'on rédige et on met par écrit quelque chose qui est déposé au-delà de la parole. Et si on en fait un livre, si on, par exemple on fait une biographie, ou si on fait écrit un roman, il y a une forme de transposition, voire de transformation qui s'opère, et un phénomène d'alchimie presque. C'est-à-dire que tout à coup il y a un objet qu'on peut même tenir entre les mains, posé sur la table, et au-delà d'avoir déposé sa parole auprès de quelqu'un, d'un psy par exemple, on a fait œuvre du malheur, on en a fait quelque chose d'autre. Et on s'aperçoit là que l'écriture devient véritablement thérapeutique. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on a réparé le passé. On l'a peut-être restauré. En tout cas, on va vivre avec nos cicatrices, c'est certain. Mais on a repris le pouvoir, on a agi grâce à quel que soit l'art. Ici, on parle de l'écriture. Si on a fait un livre, si on a écrit son récit, il y a peut-être une autre façon de vivre d'une manière plus légère. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Dans ton roman, donc le personnage central, hein, Léo, qui est un écrivain, effectivement, à un moment du roman, sans dévoiler les choses, il y a un moment qui est consacré à l'événement tragique et aux familles qui ont traversé cet événement. Et Léo est pris d'une crise de panique. Ah, il ne peut pas assister. Il y a comme un sentiment d'usurpation. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vu. Mais il y a sentiment d'usurpation, mais en fait, Léo se présente un peu comme un rescapé de ce drame, alors qu'effectivement, il ne l'a pas vraiment traversé. Et donc, oui. Puisque effectivement, le rescapé, c'est celui qui traverse le drame. Là, c'est quelque chose d'à côté, et pourtant, il semble en présenter les mêmes symptômes, comme tu dis, le syndrome du survivant. Mais est-ce que justement, oui. C'est pas ça qui lui fait avoir ce sentiment d'usurpateur, hein, en tout cas, tel que moi, oui. je l'ai perçu.
C'est ça, il se sent, en particulier, donc là il s'agit du moment où il y a une réunion oui. au Bourget, mmh, où ouais. Précisément on va connaître les résultats de la boîte
Tout
noire,
à fait. Mmh.
Et il veut être présent, il veut être solidaire de ceux qui ont perdu quelqu'un alors que lui a survécu et personne ne le sait, hein, à part son éditeur, même les membres de sa famille ne sont pas au courant, donc il s'y rend. Mais bon, il est blessé et il est entamé sur le plan psychique. Et sur place, il a l'impression qu'il n'est pas à sa place et il rebrousse chemin. C'est un sentiment... d'usurpateur. En fait, il a l'impression qu'il ne devrait pas être vivant. Et donc, c'est pas seulement le syndrome du survivant, me semble-t-il, dans ce roman, parce qu'il est avéré, ce syndrome, hein, on culpabilise, mm-hmm. on se demande pourquoi moi. Il y a eu récemment un vol qui s'est crashé en Inde et il n'y a qu'un seul survivant. Ces choses-là arrivent. Mm-hmm. Et dans la réalité, bien sûr, et il y a une difficulté à rester debout et à se dire je continue à vivre alors que les autres sont morts. Dans sa vie, cet épisode, cette survivance-là, elle est récurrente parce que ce drame-là du crash du Rio Paris 2009. Vient réveiller oui. un autre drame dans sa vie, bien antérieur, et sur lequel il avait posé un couvercle. Donc c'est un double sentiment de culpabilité, parce que par deux fois, la mort a rôdé autour de lui, a emporté des personnes, mais pas lui. Et donc là, ça fait beaucoup pour cet homme-là, ça fait beaucoup.
D'accord, merci beaucoup.
Oui, moi c'était une petite question à propos, parce que ça revient à plusieurs reprises dans le roman, de la relation éditeur-auteur. Donc je ne sais pas si c'est du vécu ou si... mais les relations ne sont pas toujours faciles apparemment.
Ah, disons que j'ai eu ma petite expérience des éditeurs, mais ce n'est certainement pas celle qui est décrite là-dedans. Toujours est-il que j'ai beaucoup lu sur la façon d'approcher les éditeurs et sur le monde de l'édition. Et puis j'ai contacté des éditeurs et j'ai pu avoir des discussions. Et oui, c'est un monde... En fait, moi, je pose beaucoup de questions sur ce monde qui est assez mystérieux pour les auteurs. Et pendant 3 ans, avec son syndrome du survivant et son traumatisme à lui, il ne peut pas produire une seule ligne. Et la patience de son éditeur finit par s'émousser. Mais du coup, quand Léo décide de se remettre à l'ouvrage avec une sorte de déclic pour se mettre à écrire, pour donner la parole à ceux qui restent, ça va surprendre son éditeur. Et son éditeur, il était dans un genre de littérature très particulier. Et donc, c'est pas forcément simple. La relation va devenir un peu rude entre ces deux hommes, c'est certain.
Oui, parce qu'il y en a un quand même qui pense beaucoup, ce qui est compréhensible, hein, l'éditeur, aux ventes, quoi.
C'est ça, pense aux ventes. Alors si Léo Vernet, qui écrivait des polars, jouissait d'un certain succès, c'est pas sûr qu'avec ce nouveau genre de littérature dans lequel il s'improvise, ça puisse être la même chose. Mais son éditeur décide de lui faire confiance quand même, sauf qu'il y a quelques rebondissements derrière, avec quelques surprises et revirements de situation, puisqu'en fait, on voit bien que pour Léo, c'est un cheminement, c'est une forme de mutation que lui a proposé cette tragédie, et on le voit cheminer et changer intérieurement, donc il aura des choix à faire et il va en faire.
Merci beaucoup. Alors, je pense que nous ne sommes pas loin du terme de l'émission, mais peut-être te laisser la parole, Christine, sur forcément notre lecture est partiale. Donc, nous avons pris des angles pour que tu puisses exprimer. Mais peut-être que toi, tu as quelque chose à dire à propos de ce livre qui te tient à cœur et que tu souhaites qu'on partage.
Oui, simplement dire que si c'est un livre qui parle d'un sujet grave et profond, qui est celui de la perte et du deuil, qui pose des questions, qui interroge l'existence avec un petit flirt avec le surnaturel. Hein. J'interroge un peu le réel avec un personnage en particulier. Oui. C'est un livre qui n'est pas fait pour plomber le lecteur, mais pour l'emmener vers des clés des idées et des clés lumineuses, en fait. C'est pour emmener vers la lumière. Il y a aussi l'amour qui a une place importante, la relation avec une femme ou avec un homme, enfin la relation amoureuse, comment elle peut nous aider à cheminer aussi dans les différences. Et donc on ne sait qu'à la fin comment et pourquoi Léo a survécu. Donc il y a aussi notion de surprise, la façon dont le livre a été construit, c'était des clins d'œil à mes propres influences. Très éclectique, latino-américaine, hein, la littérature fantastique, par exemple, mais aussi d'autres types de romans beaucoup plus contemporains. Voilà, donc je propose un voyage peut-être introspectif, mais avec une écriture romanesque, me semble-t-il. L'idée étant, de proposer un voyage. Et surtout de ne pas plomber le lecteur, bien sûr.
D'accord. Absolument pas.
Merci beaucoup.
Christine, merci parce que là, vous, c'est l'heure. Et donc, pour finir, Christine a choisi Serge Reggiani, Le temps qui reste.
Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler. Et voir et croire et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire de montagnes de rire.